franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, la success story évolutive des plantes à fleurs.
Vous disiez ? Oh, je suis ridicule. Les fleurs ne peuvent pas parler.
Je regrette, mais vous faites erreur. Nous savons parler.
Et nous savons aussi chanter.
Nous allons chanter Un matin de mai fleuri. Cette chanson parle de toutes les fleurs. Ulysse, donne-nous le la.
Voilà, si les plantes pouvaient parler comme dans Alice au Pays des Merveilles, eh bien elles pourraient peut-être nous raconter comment, il y a 150 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, les plantes à fleurs ont petit à petit pris le contrôle de toute la planète jusqu'à représenter aujourd'hui 95% de la flore sur tous les continents. Une équipe de chercheurs californiens pense avoir compris justement une partie de leurs secrets et on en discute avec notre invité Axel.
Oui Mathieu, on est en duplex depuis Grenoble avec le biologiste François Parcy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire physiologie cellulaire végétale du CEA. Alors, cette success story des plantes à fleurs, qu'est-ce qui la rend vraiment si impressionnante ? C'est ce laps de temps ou il y a autre chose ?
Il y a plusieurs caractéristiques qui font que les plantes à fleurs sont absolument exceptionnelles. D'une part, elles ont colonisé, comme le disait Mathieu, la planète entière. Et puis, ce qui a beaucoup étonné Darwin, c'est qu'en fait, elles sont apparues de façon relativement brutale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traces d'événements antérieurs. Et puis, d'un coup, on les voit sur Terre, on en voit partout. On voit beaucoup d'espèces dans tous les espaces.
Darwin se posait déjà la question de cette énigme des plantes à fleurs ?
Ah oui, Darwin, c'est lui qui lui a donné son petit nom, hein, l'abominable mystère, dans une lettre écrite à son collègue Hooker. Il trouvait que cette apparition brutale et cette radiation très rapide étaient pour lui inexplicables.
Alors, cette étude américaine n'est évidemment pas la première à tenter de répondre à la question. Qu'est-ce que pensent avoir découvert ces chercheurs de San Francisco ?
Ce que ces chercheurs proposent, c'est que la réduction de taille du génome qui a eu lieu chez les premières plantes à fleurs, elle soit en partie responsable de leur succès dans l'évolution.
Ça veut dire que la quantité d'ADN dans la cellule de la fleur est responsable de son succès ?
Alors, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, avec moins d'ADN dans le génome, ça permet d'avoir des plus petites cellules et donc d'avoir des feuilles qui sont couvertes de vaisseaux qui peuvent transporter l'eau et couvertes de pores qui peuvent faire les échanges gazeux avec l'atmosphère et que ça, c'est la clé pour une photosynthèse très efficace.
C'est quoi ? C'est un avantage évolutif ? On pourrait le dire aussi comme ça ?
Ah, tout à fait. Ça serait un avantage évolutif, c'est pouvoir avoir une photosynthèse qui permet d'entrer en compétition avec les plantes qui existaient avant eux, les fougères, les conifères par exemple, et de réussir mieux.
Alors, cette réduction du génome, comment ils ont fait pour la déterminer ? Ils n'ont pas trouvé du génome de plantes d'il y a 150 millions d'années, on imagine ?
Non, ça on ne sait pas encore le faire. Hein. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire qu'ils regardent les plantes existantes et en les comparant, en connaissant leurs liens de parenté, ils essaient d'en déduire les caractéristiques de la plante ancestrale. Si vous voulez, si tous les frères sont frisés, on en déduit que le père est sûrement frisé et puis si tous les cousins le sont, alors le grand-père l'est peut-être.
Est-ce qu'on sait à peu près à quoi ressemblaient les premières de ces plantes à fleurs ?
Alors ça, il y a eu une étude assez remarquable qui a été faite par un biologiste français qui s'appelle Hervé Sauquet de Paris Sud, qu'il a publié récemment. Et en fait, lui, il a fait ça avec les caractéristiques morphologiques et il a tenté de reconstituer le portrait de cette première plante à fleurs.
Alors, vous avez vous-même travaillé sur ce génome de la première plante à fleurs, vous avez publié l'année dernière, je crois. Est-ce que vous validez ce travail des Américains ? Ils ont percé le secret des plantes à fleurs ?
Oh là, je crois qu'on ne peut pas aller si loin quand même. Disons, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. On savait que les feuilles des plantes à fleurs, elles avaient des caractéristiques exceptionnelles. Et sans doute, le génome, ce petit génome, a pu jouer un rôle. Maintenant, on ne peut pas oublier que le succès des plantes à fleurs, c'est avant tout dû à la fleur et non pas seulement aux feuilles comme ils le proposent.
François Parcy, pour aller un petit peu plus loin justement dans le fait d'avoir un génome plus petit que les autres, ça donne quoi comme type d'avantage alors concrètement pour ces plantes ?
Donc eux, ce qu'ils proposent, c'est que ça fait des cellules plus petites et donc ça fait un pavage de la feuille, c'est-à-dire qu'on peut avoir des échanges gazeux extrêmement efficaces parce qu'il y a des tas de petits pores qu'on appelle les stomates. Et comme on perd de la vapeur d'eau, il faut aussi la faire remonter cette eau. Et donc on a aussi des tissus vasculaires, des vaisseaux qui sont très nombreux. Et donc eux, ils relient directement la taille du génome, la petite taille des cellules et le fait que ces petites cellules permettent de couvrir la surface des feuilles.
Est-ce qu'aujourd'hui encore les plantes à fleurs ont des plus petits génomes en comparaison du reste du règne végétal ?
Ça, c'est une très bonne remarque, hein, parce que, en fait, en moyenne, oui, les plantes à fleurs ont des petits génomes. Mais si on regarde la diversité des tailles de génome chez les plantes à fleurs, certaines d'entre elles ont des génomes très grands. Le maïs a un grand génome, pas aussi grand que le pin, par exemple. Mais le maïs ou le tabac ont des grands génomes. Donc, il existe une grande diversité, et pourtant, ces plantes à fleurs-là se débrouillent très bien.
Alors, Charles Darwin ne connaissait pas du tout l'ADN et la génétique. Qu'est-ce qu'il aurait dit devant ce type d'étude ?
Je pense que Charles Darwin, s'il avait pu avoir une petite entrevue de l'hérédité de l'ADN, il aurait été complètement fasciné. Il aurait pu prolonger sa théorie et lui donner corps, vraiment. Mais il a eu une intuition quand même qui est relativement géniale, avec le peu de données, qui étaient essentiellement des données botaniques et des données fossiles dont il disposait.
Merci beaucoup en tout cas François Parcy pour cet éclairage. Vous êtes biologiste et directeur de recherche au laboratoire physiologie cellulaire et végétale du CEA. Et vous étiez donc en duplex des studios de France Bleu Isère à Grenoble. Merci à vous et très bon week-end. Et Axel, merci. On se retrouve lundi.
Merci, à lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la plus vieille tombe de Prince Sith découverte dans la vallée de Loujouk en Sibérie à partir d'images satellites. Arzan Zéro, c'est son nom, devient donc le plus grand tombeau découvert à ce jour, construit par ces peuples indo-européens d'Eurasie. Les fouilles préliminaires indiquent que les poutres qui composent la chambre funéraire datent du 9e siècle avant notre ère. Très isolé, le marais dans lequel il est situé laisse penser aux experts qu'il n'a pas été pillé. C'est une chance, surtout s'il contient autant de trésors que le tombeau voisin découvert précédemment et qui était rempli d'une grande quantité d'objets précieux. Des araignées mangeuses d'araignées, des arachnologues américains ont analysé plusieurs centaines de spécimens de cet étrange groupe des araignées pélicans, ainsi nommées en raison de leur ressemblance avec les oiseaux. Leur technique de chasse est elle aussi originale puisqu'elles empalent leurs consœurs sur de longs crochets et les maintiennent à distance jusqu'à ce qu'elles meurent. Cette étude publiée dans la revue Zookase décrit 26 espèces différentes dont 18 jamais répertoriées avant. Majoritairement trouvées à Madagascar, elles vont aider les spécialistes à mieux comprendre leur évolution. La photo étonnante de cette araignée pélican est sur le Facebook de la Tête au Carré. Et puis pour finir la semaine, une image rare, des anneaux translucides de Saturne avant sa désintégration programmée dans l'atmosphère de la planète en septembre dernier. La sonde Cassini a envoyé plusieurs images de cette dernière et de ses satellites naturels, comme en témoigne un cliché pris en février 2016 et qui représente les anneaux de Saturne comme un voile translucide de glace et de roche. On y aperçoit également une des nombreuses lunes de la planète Pan, située dans la division d'Encke des anneaux. Une image qui, elle aussi, est à retrouver sur le Facebook de l'émission.